La fourchette et le prie-Dieu.
Le menton levé, le sourire aux lèvres, et vêtu d'une robe doublée de fourrure par-dessus sa chemise de nuit, Louis X entra dans la chambre. Durant le souper, il avait trouvé la reine étrangement morose, distante, presque absente, ne suivant les propos échangés qu'avec retard, et répondant à peine aux paroles qu'on lui adressait. Mais il ne s'en était pas autrement inquiété. « Les femmes sont sujettes aux sautes d'humeur, » se disait-il, « et ce présent que je lui apporte saura bien lui rendre la gaieté. » Car le hutin était de ces maris sans imagination qui ont petite opinion des femmes et pensent que toute chose s'arrange par un cadeau. Si bien qu'il arrivait se faisant aussi gracieux que possible et tenant un petit écrin de forme allongé. Il fut quelque peu surpris de voir Clémence agenouillée sur son prie-Dieu. D'ordinaire, elle avait achevé ses dévotions du soir avant qu'il entrât. Il lui fit un signe de la main qui signifiait « Ne vous mettez pas en peine pour moi, achevez en paix ». Et il demeura à l'autre bout de la chambre, tournant l'écrin dans ses doigts. Les minutes passaient. Il alla prendre une dragée dans une coupe posée auprès du lit et la croqua. Clémence était toujours agenouillée. Louis s'approcha d'elle et s'aperçut qu'elle ne priait pas. Elle le regardait.
« Voyez, mamie, dit-il, voyez la surprise que j'ai pour vous. Oh, ce n'est pas un bijou, c'est plutôt une rareté, une trouvaille d'orfèvre. Voyez !»
Il ouvrit l'écrin, en sortit un long objet brillant, à deux pointes. Clémence, sur son prie-Dieu, eut un mouvement de recul.
« Eh, mamie !» s'écria Louis en riant. « N'ayez point peur, cela n'est pas fait pour blesser, c'est une petite fourche à manger les poires. Voyez comme le travail en est habile !»
Sur le bois du prie-Dieu, il posa une fourchette à deux fourcherons d'acier fort aiguisé, sortant d'un manche d'ivoire et d'or ciselé. La reine vraiment ne semblait pas témoigner grand intérêt pour l'objet, ni bien en apprécier la nouveauté. Louis se sentit déçu.
« Je l'ai commandé spécialement par Ptolemy à un orfèvre de Florence. Il paraît qu'il n'existe que 5 de ces fourchettes dans le monde, et j'ai voulu que vous en ayez une, afin de ne point tacher vos jolis doigts quand vous mangez les fruits. » C'est bien un objet de dame. Jamais les hommes n'oseraient ni ne sauraient se servir d'un si précieux outil, sinon mon beau-frère d'Angleterre qui, m'a-t-on dit, en possède un et ne craint point la risée en l'utilisant à table. »
Il pensait par ces derniers mots avoir fait montre d'esprit et il attendait un sourire. Mais Clémence n'avait pas bougé du prie-Dieu et continuait de regarder son mari fixement. Jamais elle n'avait été plus belle. Ses longs cheveux dorés lui tombaient jusqu'aux reins. Louis enchaîna.
« Ah, Messer Ptolemy m'a justement appris que son jeune neveu, que j'avais envoyé avec Bouville pour vous quérir à Naples, se trouve guéri. Il va bientôt reprendre le chemin de Paris. En chaque lettre, il parle à son oncle de vos bontés à son endroit. »
Il n'obtint pas de réponse.
« Mais qu'a-t-elle donc ? » se demanda-t-il. « Elle aurait pu au moins me dire un mot de merci. »
Avec toute autre personne que Clémence, il se fût déjà mis en colère. Mais il ne se résignait pas à voir son bonheur si vite terni par une scène de ménage. Il prit sur lui et fit une nouvelle tentative.
« Je crois bien cette fois que les affaires d'Artois vont être réglées, » dit-il. « Les choses se présentent de bonne manière. L'entrevue de Compiègne, à laquelle vous m'avez si doucement accompagné, a eu les résultats que j'attendais et je vais bientôt rendre mon arbitrage. Tout s'apaise lorsque vous êtes auprès de moi. »
« Louis, » dit brusquement Clémence, « de quelle manière est morte votre première épouse ? »